Aujourd'hui, en ce 14 mars, c'est surtout la fête de Sainte Mathilde, rencontre spirituelle, une reine. Mais c'est aussi la fête de Ève de Liège, qui était la compagne de Sainte Julienne de Cornillon, et puis de nombreux autres saints que l'on trouve dans le martyrologe. Je vous mentionne Ève, car c'est rare qu'on voit ce prénom, Ève de Liège. C'est un très joli prénom, finalement. Mais c'est la fête de Sainte Mathilde, donc une reine. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Ça peut sembler curieux, une reine qui est une sainte, mais vous verrez comme vraiment c'est un personnage extraordinaire. Oh, elle est morte il y a bien longtemps, il y a plus de 1000 ans, en l'an 968. Mathilde, que l'on appelle aussi Maude, c'est un nom qui est devenu à la mode depuis quelque temps, hein? Maude, M-A-U-D-E, on peut se demander s'il y a une patronne pour les Maudes, mais oui, c'est Sainte Mathilde. Elle a eu pour père le comte Thierry, ou en allemand, Dietrich de Saxe, qui était descendant du fameux Witikind, que l'on célèbre le 7 janvier. C'était un prince des Saxons. Puis, sa mère était la comtesse Reinhild, du sang des princes de Danemark et de Frise. Donc, elle était vraiment une princesse. De quoi faire rêver bien des enfants qui pourraient écouter cette émission, et peut-être aussi dans le cœur de certaines auditrices qui, quand elles étaient jeunes, qu'elles entendaient les contes avec les princes charmants, être une princesse, être une reine. Mais là, vous allez voir ce que ça donne. Et vous allez voir qu'il y a des princesses et des reines étonnantes. Elle est née en 875. Donc, elle a vécu près de 100 ans, puisqu'elle est morte en 968. Elle a été élevée par son aïeul du même nom, qui s'appelait Mathilde, mais qui est devenue abbesse des bénédictines de Hereford. H-E-R-E-F-O-R-D. Et les bénédictines l'ont instruite des saintes écritures de la Bible, je crois. Mais oui, on étudiait la Bible dans ce temps-là. Déjà. En même temps qu'elle a appris à se servir de ses mains, évidemment. Elle est aimable, notre petite. Elle est active. Elle est généreuse. Elle est bientôt comblée par Dieu de bien des dons, mais des dons saints, pas des choses extraordinaires. C'est une fille équilibrée, une fille qui a du bon sang, quoi. En l'an 909, bon, elle a déjà l'âge mûr, quoi, elle épouse Henri Loiseleur. On voit son nom assez souvent dans l'histoire, qui était le fils d'Othon, duc de Saxe. Et 3 ans après, par la mort de son beau-père, elle devient duchesse de Saxe. Bon, elle monte en grade. En 919, elle est reine d'Allemagne, par l'élection de son mari comme successeur du roi Conrad, qui vient de mourir. Elle est donc reine, une quarantaine d'années. Et Dieu, par cette élévation, par ce titre qu'elle obtient, veut sans doute lui permettre de rendre service à tout le peuple. Car quand Dieu appelle quelqu'un à des responsabilités plus grandes, c'est qu'il les veut au service de plus de monde encore. Aucune raison de s'enorgueillir de quelques titres qui nous échoit ou de quelques responsabilités qu'on peut avoir. Hein. Ça, c'est pas difficile à comprendre, d'autant plus que quand on est catholique, on sait que le pape, son plus beau titre, c'est serviteur des serviteurs de Dieu. Oui, serviteur des serviteurs. Et c'est vrai qu'un pape est dévoré, un vrai pape est dévoré par le temps et par toutes les exigences de son emploi. Eh bien, Sainte Mathilde a fait preuve, toujours, d'une soumission parfaite à ce que Dieu voulait d'elle. Elle a été aussi, disent toutes les chroniques de l'époque, d'une fidélité absolument inviolable à l'égard de son mari, évidemment. Elle n'a avec lui qu'un cœur, un esprit, une même volonté. Ils forment un couple dont tout le monde parle. Ils font ensemble, d'ailleurs, de nombreuses aumônes. Ils sont extrêmement généreux. Et ils bâtissent même des monastères, des hôpitaux. Évidemment que la puissance de ces rois et de ces reines était immense, mais pensons aujourd'hui aux fortunes de la reine de Hollande, de la reine d'Angleterre. C'est des fortunes immenses. Hein? Alors, eux, dans ce temps-là, ils s'appliquaient à construire des monastères, car on en construisait beaucoup. C'était des asiles, les monastères. Des asiles pas pour les fous, mais des asiles pour les gens qui pouvaient être sujets à du brigandage, hein, des attaques des brigands, et ou des attaques plus ou moins guerrières entre les responsables, les seigneurs ou les princes. Et dans les monastères, on trouvait refuge. Ils ont construit aussi des hôpitaux. Dans l'intimité, ils accomplissent en commun leurs exercices de piété. Et pendant que son mari, le roi Henri, doit partir pour la guerre contre les Danois et les Esclavons, eh bien, il soumet la Bavière et la Bohême aussi, qui en veulent à son pouvoir, dont il a hérité. Et Mathilde, durant ce temps, eh bien, elle visite et elle nourrit les pauvres, elle les sert. Elle sert même les malades, les prisonniers, qu'elle considère constamment comme le Christ souffrant. Mathilde, au sommet des honneurs, ou comme on dit de façon bien classique d'autrefois, au fait des grandeurs, F-A-I-T-E, n'est-ce pas, au fait des grandeurs, bien, elle ne se laisse pas éblouir. Et même que ça l'ennuie, elle en découvre immédiatement la fausseté et la vanité. Avez-vous déjà entendu parler des trois archiduchesses d'Autriche au début de ce siècle? Vous savez que la cour d'Autriche était extrêmement puissante. Or, l'empereur d'Autriche avait trois filles, qu'il était les trois archiduchesses, et elles sont toutes les trois entrées au monastère, c'est dans ce siècle-ci, hein, dans les années 20, elles sont entrées au monastère de Sainte-Cécile de Solesmes, au cœur de la congrégation de Solesmes, cette congrégation de bénédictins à laquelle appartient notre monastère de Saint-Benoît-du-Lac. Et c'était toujours impressionnant que de voir dans la liste des moniales de l'abbaye de Sainte-Cécile. J'ai vu ça quand j'étais novice à Saint-Benoît-du-Lac, on voyait la liste de ces trois femmes qui étaient moniales toute leur vie. Alors elles découvrent la fausseté, la vanité de la vie princière, royale. Son élévation, en somme, au-dessus de tout le monde, sert plutôt à la rabaisser davantage devant Dieu, car elle reconnaît que seul Dieu mérite des honneurs. Elle a une humilité étonnante. Ça lui permet de ressembler beaucoup plus à des religieuses, à des moniales, qui sont consacrées à Dieu, qu'elle aime. Elle pratique d'ailleurs certaines de leurs austérités et de leurs mortifications. Elle refuse, en somme, de mener une vie factice. Alors aussi, elle sacrifie bien des moments de repos pour accomplir de bonnes œuvres. Alors le mariage de Sainte Mathilde, reine d'Allemagne, est béni de Dieu et elle a trois fils. Elle met au monde tout d'abord Othon le Grand, qui sera empereur d'Allemagne. Son deuxième fils, qu'elle préfère parce qu'il est plus gentil, il porte le nom de son mari, il s'appelle Henri. Il sera duc de Bavière. Et finalement, son troisième fils est Brunon, qui va devenir archevêque de Cologne. Köln en allemand. Hein? Puis, elle a aussi deux filles, dont l'une Gerberge. C'est pas si loin, ce nom, Gerberge, qui va épouser Louis d'Outremer, roi de France. Et l'autre, Edwige, sera la femme de Hugues, le grand-père de Hugues Capet, les Capétiens, quoi, les rois de France. Alors, la reine Mathilde, sainte Mathilde, donne donc à la prière tout le temps que lui laisse toutes les œuvres de miséricorde et de bonté qu'elle fait. Son devoir d'État l'oblige à faire bien des choses aussi, évidemment, mais elle prie le plus souvent possible et tout le monde s'étonne qu'elle puisse prier comme ça, souvent durant la journée. Elle travaille d'ailleurs sans relâche à sa sanctification. Elle veut devenir une sainte. Et elle tâche d'attirer sur son mari, sur ses enfants, toutes les grâces de Dieu, les grâces nécessaires pour que eux-mêmes deviennent des saints. Elle a, pour tous les membres de sa famille, et d'ailleurs pour la cour, pour tous les membres de la cour, une affection égale. Elle a, pour ses enfants, un peu plus de tendresse, je vous l'ai dit, pour son deuxième fils, Henri, qu'elle considère comme presque son premier-né. Henri, d'ailleurs, est plus naturellement doux, aimable, que son aîné, Othon. Alors, ce choix qu'elle fait, cette espèce de favoritisme, on pourrait dire, il fait naître, évidemment, entre les deux frères, Othon et Henri, une certaine jalousie. Alors Mathilde doit reconnaître finalement ses torts. Elle s'aperçoit son erreur parce que elle souhaite la couronne à Henri quand son mari va mourir. Elle préfère que ce soit son fils Henri. Et ça choque beaucoup Othon, évidemment. Alors elle fait pénitence de cette faiblesse. Elle doit constater, dans la suite, que Dieu n'aime pas ce genre de parti pris. Dieu ne favorise pas les injustices. Dieu ne favorise pas qu'une mère puisse préférer un de ses enfants à un autre au point d'être injuste. Alors, l'épreuve la plus rude qu'elle doit subir, c'est évidemment la mort de son mari, on peut l'imaginer, avec lequel elle n'a vécu finalement que 23 ans, mais 23 ans dans une parfaite union. C'est en 936 que son mari meurt. Elle mourra 32 ans plus tard. Sainte Mathilde, heureusement, garde fermement dans sa foi l'espoir de le retrouver un jour dans l'autre vie. Elle oublie donc son propre chagrin. En véritable chrétienne, une chrétienne qui a la foi, qui sait que la survie existe et que personne ne meurt, au fond. On passe dans un autre monde. Elle sait que le sens de la vie, c'est de voir Dieu au ciel, avec tous les élus, avec tous les saints, et d'être heureux pour toujours. Alors elle songe avant tout aux intérêts spirituels du roi, son mari, car elle recommande son âme à Dieu. Elle fait célébrer de nombreuses messes à son intention. Elle veille à ce que le corps de son mari soit porté à Quedlinbourg, lieu qu'il avait lui-même choisi pour qu'ils soient ensevelis un jour ensemble. C'est là qu'elle sera d'ailleurs ensevelie. Puis sainte Mathilde rassemble ses enfants. Elle leur adresse des conseils, des exhortations. Elle les supplie surtout de conserver ce qu'on appelle la crainte de Dieu, c'est-à-dire ce désir de ne pas déplaire à Dieu, de ne pas blesser son amour, mais aussi de craindre sa justice. En somme, de lui demeurer fidèle. Elle veut que ses trois fils et ses deux filles demeurent fidèles vraiment à Dieu. De s'entraimer, sans jalousie, ni discorde, mais hélas, hélas, là. Ses conseils ne sont pas écoutés tout d'abord. Là, les deux aînés, Othon et Henri, prétendent tous deux à la couronne de leur père. Malgré les désirs de la reine Mathilde, sainte Mathilde, dont, je vous l'ai dit, les préférences vont à Henri, bien Otton est choisi par la majorité des chefs. Et il fait sentir à sa mère du ressentiment et une certaine colère. Il a un peu raison. Et d'un autre côté, Henri se montre plutôt ingrat, lui, à l'égard de l'amour de sa mère. Il n'est pas reconnaissant. D'ailleurs, comme ça arrive très souvent autour de ces gens qui ont des énormes pouvoirs, il y a des flatteurs, des courtisans, qui indisposent par leur calomnie l'esprit des deux frères contre la reine, leur mère, Sainte Mathilde. La vertu de la reine, mais c'est curieux, ça leur devient odieux. Ils la trouvent trop pieuse, trop religieuse, elle s'occupe très trop des pauvres. Ils se mettent à envier d'ailleurs les pauvres qu'elle assiste. Ils vont jusqu'à dire, et ça c'est terrible, qu'elle a amassé des richesses immenses pour les dissiper ensuite par sa mauvaise conduite. C'est incroyable. Et puis, on prétend qu'elle a dépensé toutes les économies du roi, son mari. Et on l'accuse d'avoir appauvri et même épuisé. Façon épouvantable, le trésor de l'Allemagne, trésor de l'État. Alors, sur tout autre point, ces deux fils, Otton et Henri, ne peuvent absolument pas s'entendre. S'ils s'entendent pour rejeter leur mère, ils ne s'entendent pas sur le reste. Mais ils s'entendent quand même pour arrêter les charités de leur mère. Faire cesser toute cette forme de bienfaisance, presque de partage, presque socialiste, si on peut dire, des richesses de l'État. Alors, il la dépouille de ce qu'elle possède. Ils veulent même la chasser du domaine. C'est incroyable. La chasser du domaine qu'elle avait reçu en dot. Et puis, ils veulent l'obliger à prendre le voile dans un monastère pour l'enfermer. Vous savez que ça se pratiquait jusque, il n'y a pas tellement longtemps, dans des familles. On enfermait une fille dans un monastère pour s'en débarrasser. Chose étonnante, il y a de ces femmes qui se sont converties à l'intérieur du monastère, qui sont devenues d'excellentes moniales, mais d'autres, pas du tout. Alors, Sainte Mathilde se réfugie au couvent d'Angerhen, en Westphalie, où elle continue de mener une vie sainte, une vie faite de patience, de résignation. C'est pas facile quand on est maltraité, mal jugé, que nos enfants sont ingrats. Je pense à des tas de mères de famille aujourd'hui qui ont des enfants ingrats. Pour y invoquer Sainte Mathilde, on dit que dans ce monastère en Westphalie où elle a vécu pendant un certain temps, bien, elle a été remarquable de patience. Remarquable. Tout le monde en parlait. On dit qu'il ne lui ait jamais échappé quelque plainte que ce soit. Aucun mot de reproche ou de blâme, imaginez, contre ses enfants. C'est de l'héroïsme au suprême degré. Je me demande si c'est pas exagéré. Mais les saints arrivent comme ça à pratiquer des vertus de façon héroïque. Ne pas se plaindre de l'injustice de ses deux fils qui sont des princes, dont l'un devient empereur d'Allemagne, elle qui était la femme de l'empereur, du roi. C'est incroyable. C'est vraiment de l'humilité et une vie chrétienne qui ne peut être vécue que par la prière chaque jour. Un sens de la présence de Dieu, comme je vous disais avant-hier. Le sens de la présence de Dieu, c'est très important. Alors il ne lui échappe donc aucune plainte, je vous l'ai dit, aucun mot de reproche ou de blâme contre ses enfants. Et ceux qui lui font remarquer que son fils, que ses fils ont eu à son égard une conduite finalement criminelle, elle se contente de répondre qu'ils ne sont en fait que les exécuteurs de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu sur son âme. Dieu façonne les âmes à travers des événements. Dieu ne veut pas que les enfants soient ingrats. Dieu veut à l'intérieur de ces événements que son âme se purifie, qu'elle ne s'attache qu'à ce qui compte, non pas aux vanités, non pas à la reconnaissance, même pas à l'affection de ses enfants, mais qu'elle s'attache à l'affection qu'elle doit avoir à l'égard de Dieu. Rien d'autre. Dieu seul. C'est pas une exigence de Dieu, ça. Dieu veut notre bonheur, et quand il nous demande de l'aimer par-dessus tout, il nous demande de l'aimer vraiment. Parce que c'est en l'aimant vraiment qu'on se libère. Qu'on se libère, et que si on a de la reconnaissance de ses enfants, on s'en réjouit, mais si on a de l'ingratitude, on n'est pas affecté, outre mesure. On peut souffrir, on peut même pleurer, mais au fond de son cœur, on est attaché à Dieu. Sainte Mathilde disait, « Mon fils Othon me traite comme je l'ai mérité. » Parce qu'elle se considérait comme une pécheresse, au fond. Parce qu'on n'est jamais parfait. Aucun saint n'est parfait. Seule Marie, la Sainte Vierge, n'a pas péché. Et elle ajoutait, Sainte Mathilde, « Pour mon fils Henri, que j'ai tant aimé, et que j'aimerai toujours également, je ne puis croire que ce soit vraiment lui qui se soit conduit ainsi à mon égard. » Elle attribue ça déjà, sous un certain sens, à un phénomène psychologique, quoi. Et elle termine en disant, Sainte Mathilde, « On prévoyait qu'il devait être ma consolation et mon appui. Et l'on a jugé à propos de m'enlever cette ressource, Dieu soit loué, et qu'il veuille, par sa miséricorde, réconcilier mes deux fils entre eux. » En somme, Dieu permet que ses deux fils, après avoir tourmenté leur mère quand ils l'avaient près d'eux, soient tourmentés à leur tour de son absence, puis de son éloignement. Ils vont regretter. Othon, d'ailleurs, celui qui a succédé à son père, échoue dans toutes ses entreprises. Et Henri, le deuxième, est atteint d'une grave maladie. Alors les évêques et les prêtres saisissent cette occasion pour les faire rentrer en eux-mêmes. Ce sont des prêtres et des évêques qui savent enseigner l'Évangile et qui savent toucher les cœurs de ces princes au cœur dur, des enfants qui sont indignes. Ils remplissent leur tâche de véritables prêtres, de véritables évêques. Alors ils emploient la reine Édith, femme d'Othon, et princesse honnête, pour inspirer à son époux Othon l'horreur de sa conduite, puis pour le porter à faire revenir immédiatement sa mère auprès de lui, elle qui est enfermée dans un monastère. Alors, Othon finalement se décide. Il envoie vers sa mère, Sainte Mathilde, des évêques, des ducs et des comtes, et des personnes très sages qui font partie de ses conseils, comme on dit, pour aller lui demander pardon en son nom. Et aussi pour la supplier de revenir au palais. Alors la reine Mathilde reconnaît alors que Dieu a exaucé ses prières. Et elle décide de se mettre en chemin. Alors Othon, dont le cœur change petit à petit, vient même à sa rencontre. Il est accompagné de sa femme, la reine Édith, et des principaux seigneurs de la cour. Et dès qu'il aperçoit sa mère, il descend de cheval. Lui qui est le roi, l'empereur, il se jette aux pieds de sa mère. Il lui demande pardon dans des mots très humbles et qui ont touché toute la cour et tout le monde qui est là. Ce ferait une scène de film si on voulait faire la vie de Sainte Mathilde, qui pourrait être très belle. Alors Henri, le deuxième fils, qui est vraiment touché par l'exemple de son frère aîné, vient aussi faire sa soumission à sa mère. Puis, il en obtient le pardon avec la même facilité que son frère aîné. Alors Mathilde, Sainte Mathilde, profite plutôt du calme, où Dieu la fait rentrer pour servir les pauvres et tous les gens dont elle aimait tellement s'occuper. Et de concert avec son fils, le roi Othon, elle fait bâtir des églises, elle fait bâtir des hôpitaux et d'autres maisons consacrées à la gloire de Dieu. Ça ne s'était pas fait depuis déjà un bon bout de temps, car ses deux enfants ne voulaient rien entendre de ces choses-là en son absence. Et c'est alors qu'elle a construit le célèbre monastère de Polden, dont malheureusement on a perdu la trace. Mais on sait par des archives et des documents anciens que cette maison renfermait 3000 moines qui chantaient constamment les louanges de Dieu. Et la mort de son fils Henri est survenue peu de temps après, et ça lui a été très sensible. Alors on a vu qu'elle a eu bien à souffrir de la part de ses deux fils, mais heureusement, il y a eu réconciliation. Et son fils, son deuxième fils Henri, meurt. Alors plus elle avance en âge, plus elle démontre autour d'elle une ardeur pour se conformer à Jésus. C'est une imitation vivante de Jésus-Christ. Elle l'imite par son humilité et sa patience. Sainte Mathilde augmente toujours en vertu et ses forces lui permettent finalement de pratiquer des veilles, des abstinences qui étonnent les gens. Elle se lève la nuit à l'insu de tout le monde, mais quelques-uns l'ont remarqué. Et avant le chant du coq, vous savez, vous êtes déjà allé à la campagne autrefois, hein? C'était le chant du coq qui réveillait les villages. Je me souviens de ça quand j'étais lors de mon premier voyage en France en 49-50. J'ai voyagé pendant des mois me cherchant un monastère. Et puis, dans les petits villages que je visitais, c'était extraordinaire. Hein? Très tôt le matin, le coq chantait, tout le monde se levait. Très tôt, en plein été. On était debout à 5 heures, quoi. C'était merveilleux dans un sens. Il fallait s'endormir tôt. Alors, avant le chant du coq, bien, on dit que Sainte Mathilde avait ordinairement récité de très nombreux psaumes qu'elle méditait. Et depuis la réconciliation de ses enfants, bien, Mathilde a gouverné ses fils, car son fils Henri n'est pas mort tout de suite. Hein. Elle les a gouvernés toujours en leur donnant des conseils dont tout le monde profitait, et elle forme elle-même ses petits-enfants à la piété. En 962, donc 6 ans avant sa mort, son fils aîné, Othon, est proclamé empereur cette fois-là. Il est couronné à Rome avec Adélaïde qu'il a épousée en seconde noce. Sa première femme s'appelait Edith. Alors cette élévation, pour Mathilde, c'est un sujet d'inquiétude, plutôt que de réjouissance. Car Othon a chargé sa mère, Sainte Mathilde, en son absence, de l'administration des affaires. Ça, c'est un surcroît dans un sens de gloire, si on peut dire. Hein? Et pour toute la famille, hein, il est empereur. Puis ça donne aussi à Othon, puis par ricochet à Mathilde, des nouvelles obligations. Alors à son retour d'Italie, notre nouvel empereur Othon va visiter sa mère à Cologne, où elle se trouve près de l'archevêque, son fils, là, Brunon, le troisième fils. Brunon, B-R-U-N-O-N. Et ils vont ensemble à Nordhausen, en Thuringe, où Mathilde a fondé un grand monastère. Et c'est là que se fait la séparation, car Mathilde veut demeurer près des moniales, pour mieux se préparer à la mort. Alors, bientôt après, elle est prise d'une maladie assez terrible. Elle peut quand même visiter les établissements qu'elle a fondés dans la Saxe. Mais elle se sent faiblir. Elle se sent faiblir constamment. Alors, elle quitte Nordhausen pour, vers la fin de 967, l'année avant sa mort, pour se rendre à Quedlinbourg, là où son mari est enseveli, hein, et où elle doit être ensevelie elle-même. La fièvre lente, qui l'incommode depuis quelques mois, là, augmente toujours de plus en plus. Alors, elle donne le reste de ses biens aux évêques qui sont présents. Elle leur recommande de bien distribuer ses biens en aumône. Et puis, avec beaucoup d'équité, elle reçoit les derniers sacrements des mains de son petit-fils. Oui, elle a un petit-fils qui est archevêque de Mayence. Alors, après quelques jours, celui-ci, ce jeune archevêque, son petit-fils, la quitte pour aller régler les affaires de son diocèse. Elle appelle auprès d'elle l'abbesse de Nordhausen. Puis elle lui dit, « Que donnerons-nous à mon petit-fils, l'archevêque de Mayence, qui vient de nous quitter? Elle voudrait lui léguer quelque chose. » L'abbesse lui dit, « Vous n'avez plus rien. Vous avez fait tout vendre, meubles et vaisselle, pour en distribuer le produit aux pauvres. Il ne vous reste que les draps qui sont mis en réserve pour vous ensevelir. » Et qu'est-ce qu'elle dit, Sainte Mathilde? Ben, elle dit, « Donnez-les à mon petit-fils, qui en aura besoin avant moi. » C'est de la prophétie dans l'avenir. Elle voit dans l'avenir. Elle voit que son petit-fils va mourir avant elle. Elle qui va mourir très bientôt. Alors, comme l'archevêque de Mayence avait voulu laisser auprès de sa grand-mère un de ses ecclésiastiques, Sainte Mathilde s'y était refusée. Elle avait dit, « Il vous sera plus utile qu'à moi-même, cet ecclésiastique. » Elle annonçait assez clairement par là que son petit-fils, l'archevêque de Mayence, la précéderait dans la tombe. Ce qui s'est réalisé, en effet. Deux ou trois jours après son départ, elle apprend la mort subite de son petit-fils. Elle sent alors approcher sa dernière heure. Alors, Sainte Mathilde fait rassembler les ecclésiastiques de sa maison. Parce qu'il faut dire que dans ces maisons et palais, il y avait des prêtres qui célébraient des offices au chœur. Des chanoines, souvent qu'on appelle des chanoines réguliers, ou des moines. Alors elle les fait appeler. Elle fait appeler aussi les religieuses qui s'occupent de ces maisons, de ces palais. Et à leur tête, elle fait appeler ce sont comme des moniales, elle fait appeler la jeune abbesse sa petite fille, car elle a une petite fille aussi qui est abbesse, et qui porte son nom, qui s'appelle Mère Mathilde. Elle règle elle-même ce qu'il y a à faire pour ses funérailles, ses obsèques. Elle donne à tous des leçons de piété, de sagesse, et notamment sa petite fille Mathilde, l'abbesse, qu'elle console. La reine Mathilde rappelle à celle-ci, sa petite-fille Mathilde, qu'elle l'a recommandée avec son couvent à la sollicitude d'Othon, l'empereur, son fils, et que d'ailleurs, elle doit se confier à Dieu, d'abord. Alors, la reine Mathilde renouvelle sa confession, elle fait une confession générale. Elle fait célébrer la Sainte Messe. Elle reçoit de façon très émouvante le corps de Jésus-Christ, comme un bouclier, dit-elle, contre les dernières attaques du démon. Car elle sait bien qu'au moment de mourir, la faiblesse du corps peut entraîner la faiblesse de l'âme. Et comme elle est sur le point d'expirer, elle fait mettre à terre un cilice, c'est-à-dire une espèce de chemise de crin de cheval, hein, C'est très dur. Puis elle demande à y être étendue, elle, reine, pendant qu'on répand des cendres sur sa tête. C'est une symbolique que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Hein. Lisez à nouveau, si vous avez le temps, les 2, 3, 4 pages du livre de Jonas. Et vous verrez que quand Jonas prêche, eh bien, le roi de Ninive se jette de la cendre sur la tête, en signe de pénitence. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais évidemment que dans le livre de Jonas, c'est un conte. Mais ça s'est pratiqué. Et ce n'est pas fou, au fond. Souvenez-vous que le mercredi des cendres, qu'est-ce qu'on fait? Les prêtres nous mettent de la cendre sur la tête. J'aimerais qu'ils nous en mettent davantage. D'ailleurs, ils en ont souvent beaucoup, puis ils la rapportent à la sacristie. Ils devraient presque nous en couvrir un peu le front. Qu'on en ait de la cendre. Que le signe soit visible. Qu'on puisse s'en aller finalement dans le métro, puis qu'on n'ait pas honte d'être des catholiques qui se rappellent que nous sommes poussière. Que nous allons retourner en poussière. Mais que nos corps ressusciteront. Que nos âmes sont éternelles. Que ce qui compte, c'est la conversion profonde. La conversion profonde, le retour vers Dieu, se convertir, convertir, se retourner vers Dieu. Dieu qui nous habite, qui est au fond de nous-mêmes, là où il crie vers nous pour nous donner tout le bonheur que son cœur contient. Alors, ayant reçu la cendre sur sa tête, sainte Mathilde s'est endormie paisiblement dans le Seigneur. Après avoir tracé sur elle-même le signe de la croix, c'était le 14 mars de l'an 968, il y a plus de 1000 ans. Sainte Mathilde a été inhumée suivant son désir dans l'église de Saint-Gervais, à Quedlinbourg, près de son mari, le roi Henri. Et presque au lendemain de sa mort, tout le monde s'entendait pour célébrer sa sainteté. Mais malheureusement, on sait qu'il y a eu, des siècles plus tard, des ravages terribles à cause des guerres de religion en Allemagne, après l'avènement de Luther. Et ces guerres ont effacé bien des traces du culte qu'on lui rendait, les protestants s'opposant aux pratiques catholiques du culte des saints qu'on trouvait souvent idolâtres ou superstitieux. Bon, ils avaient peut-être un peu raison à prime abord. Hein? Faut pas condamner nécessairement les protestants. Un calendrier publié à Rome en 1581 mentionne au 14 mars Sainte Mathilde, reine de Germanie, et la représente à genoux devant un autel avec sa couronne royale. Les martyrologes, ce sont les listes des martyrs et des saints, semble insinuer qu'elle est morte ou qu'elle a été enterrée à Halberstadt, dans le pays de Brunswick. Le martyrologe romain nomme en effet cet endroit-là, mais on peut expliquer ce détail en disant que Quedlinbourg appartenait alors au même diocèse que Halberstadt. De toute façon, la communauté de Quedlinbourg est passée au protestantisme, et puis a embrassé ce qu'on appelle la confession d'Augsbourg, sont devenus luthériens, en 1539, donc pas tellement longtemps, 20 ans après le début de cette malheureuse et triste séparation de notre très sainte Église. Très sainte, mais à cette époque, sous certains aspects, terriblement décadente. De nos jours, le culte de Sainte Mathilde semble renaître dans la ville même où ses reliques sont enfermées au fond d'un temple luthérien. Et une église catholique lui a été dédiée d'ailleurs à Quedlinbourg. Au milieu du siècle dernier, alors c'est pas d'aujourd'hui que les choses se refont autour de Sainte Mathilde pour obtenir un mutuel respect entre catholiques et luthériens, grâce à Sainte Mathilde, impératrice d'Allemagne. Alors, sa vie nous est connue de source par un hagiographe qui a écrit 15 ans après sa mort, seulement 15 ans. Et en somme, c'est l'essentiel de sa déposition se résume ainsi. Je vous fais un résumé de la vie de Sainte Mathilde. C'était le comte, je vous le rappelle, Thierry ou Dietrich d'Oldenbourg, descendant direct du fameux Saxon Witiking, a pour épouse Reinhild. Alors Mathilde, ça veut dire Mathilde, puissance guerrière, ça c'est surprenant, c'est un nom populaire sous la forme de Maud, hein, ou même Mechtilde, c'est encore Mathilde, ça, Mechtilde, il y a une sainte Mechtilde dont je vous parlerai un jour. Alors Mathilde, leur fille, dont je viens de vous raconter la vie, mais elle apparaît aussi pieuse que, dit-on, belle dans les textes. Alors on l'a mariée sur le tard, elle avait 37 ans, je vous l'avais insinué, au duc Henri de Saxe. Vous l'avez vu qu'il l'a épousée en seconde noce, lui. Et il devient bientôt empereur d'Allemagne. Ils ont 5 enfants, je vous rappelle, Otton, Henri, Brunon, Gerberge et Edwige, et puis elle est veuve après 25 ans à peu près de mariage. Elle est impératrice douairière, hein, elle est la grand-mère, si on veut. Elle souffre beaucoup des disputes continuelles de ses deux fils, que je vous ai raconté, Henri, qu'on appelle parfois Henri le querelleur, celui qu'elle aimait, et Otton le grand, qui veulent s'approprier la couronne. Alors, elle souffre d'exil, puis elle est complot, des ruptures, des réconciliations, puis tout ça, ça rythme sa famille. Elle s'est retirée au couvent géant là, de Nordhausen, en Thuringe. Il y avait 3000 religieuses. Et puis, finalement, bien, Sainte Mathilde édifie tout le monde par son exemple, l'humilité, la régularité, la charité. Puis elle reçoit donc l'extrême onction de son petit-fils Guillaume, qui était devenu archevêque de Mayence. Les dernières paroles de l'empereur Henri, le 2 juillet 936, son mari quand il est mort, il lui dit « Mathilde, chérie, en tout, tu nous as donné des conseils. Et souvent de fois, tu nous as rappelé l'iniquité pour passer à la justice. Nous te recommandons à Dieu ainsi que nos enfants. » Il dit « nous », c'est le langage d'un empereur. « Nous te recommandons à Dieu ainsi que nos enfants. » Nous rendons grâce au Seigneur qu'il veuille bien te laisser survivre. On peut lire aussi que les deux fils de l'impératrice, longtemps brouillés comme frères ennemis, se réconcilient pour persécuter leur mère. C'est le texte même ancien, ça. Des courtisans calomniateurs viennent en effet de persuader Otton que cette dernière cache de fabuleux trésors. Alors, je vous avais tout raconté ça tout à l'heure. Et un jour qu'un de ses proches stigmatise cette conduite des fils indignes, bien, je vous rappelle les paroles de Sainte Mathilde. « C'est pour moi une grande consolation que de constater combien mes fils, longtemps en pénible désaccord, commencent à bien s'entendre en me persécutant. Fasse le ciel qu'à condition de ne pas pécher, ils persévèrent en cette conduite. J'aurai au moins la joie de les voir unis. » Une vraie mère, hein? Au début de mars 1968, là, quand elle était devenue nonagénaire, puis qu'elle sent que la mort approche, hein, je vous avais dit qu'elle distribue à divers monastères tous ses biens, puis elle a fait appeler son petit-fils, là, et puis elle lui a dit « C'est la divine providence qui vous conduit près de moi. Aucun ministère ne saurait me procurer plus de joie que le vôtre. » Son petit-fils est archevêque de Mayence, c'est merveilleux pour elle. Elle ajoute « En effet, il plut à Dieu de me faire survivre à Brunon, mon fils bien-aimé, archevêque de Cologne. Vous, son successeur, entendrez d'abord ma confession. Vous m'absoudrez de mes péchés en vertu des pouvoirs que vous tenez de Dieu et de Saint-Pierre. Ensuite, allez à l'église. » Vous y célébrerez une messe pour le repos de l'âme de l'empereur Henri, mon époux défunt et mon seigneur. Vous y ajouterez le memento pour les fidèles du Christ vivants et morts. Et sur son lit d'agonie, Elle déclare, sainte Mathilde, « Bon Jésus, merci de votre infinie miséricorde envers votre créature à laquelle vous donnez quelques petites souffrances. Quiconque vous regarde, tout déchiré et étendu sur une croix, si dure, peut-il avoir une bouche, un cœur et une âme pour se plaindre ? Ah, merci Seigneur !» Et quand elle était retirée au monastère donc de Quedlinbourg, comme je vous ai raconté tout à l'heure, l'impératrice, je vous l'ai dit, était mourante, elle demande à l'abbesse. L'abbesse s'appelait Richburg, de la déposer, je vous l'ai dit, sur un cilice recouvert de cendres. Et elle a déclaré, ça j'avais négligé de vous le dire, elle a déclaré, « C'est ainsi qu'une chrétienne doit mourir. » C'est parmi les dernières paroles, donc, de cette impératrice, sainte Mathilde. Vous pourrez croire que tout ça a un caractère presque exagéré. Hein? Pourtant, si on lit bien Lumen Gentium, texte de l'Église officielle, Vatican II, on lit ceci. Le Seigneur Jésus, maître et modèle de toute perfection, a prêché cette sainteté de vie, dont lui-même est l'auteur, et qu'il conduit à son achèvement. Il l'a proposé à tous et à chacun de ses disciples, quelle que soit sa condition. Les disciples, c'est nous tous. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si vous voulez retracer ce texte, vous cherchez dans l'Évangile de saint Matthieu, au chapitre 5, verset 48. Le texte de Lumen Gentium continue ainsi. Vous savez, c'est cette assemblée au Vatican II, Concile Vatican II, dans les années 60, ils étaient plus de 2000 évêques, réunis dans l'immense basilique du Vatican, Saint-Pierre de Rome. Il déclare, « En effet, c'est à tous qu'il a envoyé le Saint-Esprit qui les incite intérieurement à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, de toute leur force, et à s'aimer les uns les autres comme le Christ les a aimés. Les adeptes du Christ, appelés par Dieu et justifiés en Jésus-Christ, non à cause de leurs œuvres, mais selon le dessein et la grâce de Dieu, sont vraiment devenus par le baptême de la foi, fils de Dieu et participants de la nature divine. Ils ont donc été réellement sanctifiés. Ils doivent donc, avec l'aide de Dieu, maintenir et perfectionner dans leur vie cette sainteté qu'ils ont reçue. Mais oui, on l'a reçue. Il faut la maintenir, la perfectionner, comme nous disent nos évêques, hein? Le texte continue, c'est très beau. Hein? Il est donc clair pour tous que chacun des fidèles, peu importe son état ou son rang, qu'on soit impératrice ou chômeur ou laveur de vaisselle, eh bien, peu importe son état ou son rang, chacun des fidèles est appelé à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité, de l'amour, quoi. Au reste, par une telle sainteté, il contribue à rendre plus humaine la manière de vivre dans la société. C'est vrai. Hein? Si notre société est si difficile d'y vivre, c'est parce que ça manque de saints. Mettons quelques saints dans la ville de Montréal qui rayonnent. Mettons un peu plus de prêtres saints qui nous enthousiasment à la messe, qui nous saisissent au cœur et qui nous donnent le goût de marcher et d'aller de l'avant. Mettez quelques religieuses plus saintes encore ici et là, et de nombreux laïcs, des pères de famille, des mères de famille, des professeurs, des instituteurs, des médecins, des avocats, des fonctionnaires, des marchands, des vendeurs, des ouvriers, des chefs syndicaux, qui soient des saints. Ça transforme la société, les évêques disent bien. Au reste, par une telle sainteté, il contribue à rendre plus humaine la manière de vivre dans la société. En divers genres de vie et parmi des occupations différentes, c'est une unique sainteté que cultivent ceux qui sont mus par l'Esprit-Saint, disent les évêques. Obéissant à la voix du Père et adorant le Père en esprit et en vérité, ils suivent le Christ pauvre, humble et chargé de la croix, pour mériter de participer à sa gloire. Que c'est beau ces textes du Concile, hein? Je termine. Chacun doit, selon ses capacités, et sans aucune hésitation, s'engager dans la voie de la foi vive, qui éveille l'espérance et qui opère, oui, qui opère par la charité, opérer là, qui agit, qui pose des gestes tous les jours, du matin au soir, par la charité, par l'amour. Tous les fidèles sont donc invités aux mêmes tenues, disent les évêques, ils sont même tenus à rechercher la sainteté et la perfection de leur état. Et les dernières phrases, c'est qu'ils s'efforcent d'orienter leur tendance dans la voie droite, de peur que l'usage des choses de ce monde n'entrave chez eux la charité, c'est-à-dire de peur que leur amour soit devienne des petits traits d'égoïsme et de platitude, des petits traits niais qui font des chrétiens de pauvres êtres. De pauvres êtres. C'est Nietzsche qui disait « J'y croirais si les chrétiens avaient l'air d'être sauvés. » Et quand on n'a pas l'air d'être sauvé, quand on a l'air d'être aigri, chagrin, impotent presque dans l'esprit, dans le cœur, comment voulez-vous que l'Évangile se répande? Alors les évêques concluent en disant « Quant à ceux qui sont accablés par la pauvreté, la faiblesse, la maladie, l'adversité, ou qui souffrent persécution, qu'ils se sachent unis de façon particulière au Christ souffrant pour le salut du monde. » C'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure, que Dieu est toujours présent au fond de nous pour nous consoler par sa douce présence au creux de nos plus terribles souffrances. Oh, c'est pas facile. Hein? Je vous l'ai dit, on peut pleurer, on peut se plaindre, mais ce n'est pas grave. Dieu est là.